nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Acceptez-vous de nous prendre dans votre bateau? Nous paierons bien. Florent lui dit, vous voulez aller où? Elle lui dit, n'importe où, en France si c'est possible. C'est-il tenté? Je ne supporte pas. On veut nous enterrer vivants. Mon mari est malade. Il n'a plus la force de se défendre. Je vous en prie, aidez-nous. L'aubergiste arrive et regarde le couple et dit, qu'est-ce que vous faites ici? Partez d'ici. Il regarde les jeunes gens et dit, ils sont fous, ils n'apportent que des ennuis. Ne vous occupez pas de ce qu'ils vous disent. Allez, partez. La femme dit, vous ne nous aurez pas. Elle prend son mari par le bras et sort de l'auberge. L'aubergiste dit aux jeunes gens, méfiez-vous de cette femme. Elle est aussi dangereuse qu'Hélène. Gilbert demande, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'aubergiste lui dit, ils portent un mauvais sort. Elle a séduite un jeune garçon de 15 ans. C'est une garce. Son mari est malade. Il se mord. Il a été piqué. Il ne peut plus être un homme. C'est des fous, des criminels, des criminels. C'était notre maître, il y a bien longtemps. Ils habitaient la famille. Une grande maison à la sortie du village. Le fils s'est marié avec cette fille. Il l'a ramenée du continent. Elle l'a rendue malade. Il s'est piqué. Elle a séduit toute la famille. Ils se sont entretués pour la voir. Et une fois qu'ils ont eu la maison, elle a voulu quitter l'île parce qu'elle s'ennuyait. Mais un jour, elle a rencontré un jeune garçon, un jeune berger. Elle l'a séduite. Le jeune en est mort parce qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Il ne supportait pas qu'il la laisse. Il s'est jeté du haut d'une falaise. Depuis, elle a honte et veut fuir. Mais personne ne veut la laisser partir. Ce sera sa punition qu'elle reste toujours avec nous. C'est Hélène-là. C'est Hélène-là.
Gilbert dit, vous ne pouvez pas les empêcher de partir. Elle peut prévenir la police.
n'y a pas de police ici. La loi, c'est nous. Tout à coup, ils entendent des cris, du bruit, des gens qui courent. Ils se lèvent pour aller voir. Ils voient une douzaine d'hommes en noir, des gens du pays, courir et jeter des pierres au couple. L'homme et la femme courent dans tous les sens, effarés. Tout d'un coup, on leur bat leur chemin. On se rue sur eux. Deux hommes écartent la femme en la maintenant bien par derrière. Elle crie, tape des pieds, des poings. Les autres se ruent sur le mari, le font tomber à terre et tombent sur lui. Ils crient, ils essaient de se débattre, mais ils sont trop nombreux. Gilbert, qui voit, se dit, il faut les aider. L'aubergiste lui dit, laisse, c'est leur histoire. Et lui prend le bras. Gilbert, d'un geste, se dégage. En se retournant, il voit sur le mur un fusil. Il fonce le prendre, le décroche. L'aubergiste lui dit, laisse-le, il est à moi, c'est dangereux. Gilbert le repousse, sort de l'auberge, le fusil à la main. Florent passif le suit. Gilbert court vers la racaille et leur crie, arrêtez! Laissez-le! Gilbert a tiré. Les gens se retournent. Ils voient Gilbert un fusil à la main et Florent. Partez tout de suite! Il brasse son fusil. Les hommes en noir s'éloignent. Il laisse sur la place l'homme et la femme. L'homme est resté à terre, les bras en croix. La femme va vers lui, se penche et crie non ! Gilbert et Florent accourent. Elle leur dit, ils l'ont tué ! Ils l'ont tué ! Les jeunes gens se penchent. L'homme a le visage rouge, les yeux et la bouche ouverte. Il est mort. Gilbert prend la femme dans ses bras et la relève. Il dit à Florent, il faut appeler la police. Elle leur dit, il n'y a pas de police. Ils sont de l'île. L'île est à mon mari. Ce peuple nous a toujours détestés. Parce qu'ils en ont toujours voulu à mon mari. Qui se marie avec une belle femme comme moi. Ils auraient voulu une des leurs. Sur le continent, ne craignez rien. Ils vous laisseront partir. Ils ont ce qu'ils voulaient. Ils voulaient le garder pour eux. Ils l'ont. Ils le gardent pour eux. Et moi, ils voulaient que je parte. Et je pars. C'est des cannibales. Ils ont tué leur maître pour l'avoir à eux. Partons. Gilbert regarde autour de lui. Pas de bruit, personne. Elle lui dit, l'île est morte. Nous devons la quitter. Gilbert regarde. Il demande à Florent, qu'est-ce qu'on fait? Florent lui dit, faut partir, quitter ces lieux. Les gens vivent hors du monde et des lois. Il demande à la femme, nous prenons le corps. Elle lui dit, non, il leur appartient, c'est leur maître, il est à eux. Allons. Dans un silence de mort, il s'en retourne au bateau. Il n'y a pas homme qui vive, même pas un chat ni un oiseau. Tout est mort. Seule la mer est vivante. Le port aussi est vide. Ils embarquent et mettent le bateau en marche. Une fois éloignés de cette île étrange, ils sont allés allonger la femme dans la cabine. Ils ont donné un petit remontant, un cognac et un gant imbibé d'alcool de menthe. La mer est calme, il n'y a pas de vent. Gilbert demande à la femme, vous voulez rester seul? Elle leur dit, non, restez. Ils s'assoient à terre, près du lit. Il fait moins chaud sur le bateau que dans l'île. Et respire mieux, respire mieux. Mande, vous êtes qui? Elle lui dit, je m'appelle Hélène, j'habitais Paris, je vivais une vie heureuse et mondaine. Un soir, à une de ces soirées où j'étais invitée, j'ai rencontré mon mari. Il m'a été présenté comme le prince d'une île grecque. J'ai été séduite par cet homme un peu timide, très gauche dans le monde. Il parlait très bien le français, nous avons pu sympathiser. Il m'a dit qu'il habitait un palais, que sa famille descendait des Ulysses. Je rêvais à quelque chose de merveilleux, il était gentil, beau. Nous sommes mariés, et puis il a voulu présenter à sa famille. J'étais heureuse, j'allais être reçue par une grande famille grecque. Je suis arrivée là-bas, j'étais déçue par l'île toute petite, un village, des gens à moitié incultes qui n'avaient pas changé depuis des lustres. J'étais encore plus déçue par la famille. Et la maison. Le palais, c'était une grande ferme. La famille des paysans, tout aussi inculte que les gens du village. Lorsque j'y suis arrivée, on m'a à peine parlé. J'étais regardée comme une étrangère aux cheveux blonds. Je parlais à peine. Je plaignais. Quelquefois, quelqu'un criait pour me donner un ordre. On m'avait mise dans une chambre où il y avait des trous de souris. La chambre était sous les toits. Dans la maison, il n'y avait pas d'eau, juste la fontaine dans la cour. Une ferme, quoi. Et ces gens, là, croyait être le centre du monde. Mon mari était heureux de retrouver les siens. Moi, je voulais m'en aller. Lui voulait rester, mais on est resté. Le temps a passé. Toujours l'étrangère. Et chaque fois que quelque chose n'allait pas, on disait que c'était moi qui avais jeté le mauvais sort. En plus, j'étais pas enceinte. On disait que c'était de ma faute. Mais en réalité, c'était mon mari qui n'avait pas un bon sperme. L'on le savait, ton mari et moi avant notre mariage. Ça ne nous gênait pas d'avoir de ne pas avoir d'enfant, mais sa famille. Puisque je ne pouvais pas avoir d'enfant, ça voulait dire que j'avais eu une vie dissolue. Et que c'était à cause de ça. Donc que j'étais une putain. Ça les a excités. Puisque j'étais une putain, tout le monde pouvait aller avec moi. Le père, l'oncle, le frère. Ils voulaient tous. Je me cassais, enfermé dans ma chambre. Mon mari avait honte. Je ne sais pas faire quoi que ce soit. Il les a pris. Ils se sont mis à me haïr. Ils se battaient. Ils ont fini par s'entretuer. Je les entendais crier, hurler entre eux. Le fils, fou de rage, car il me voulait pour lui seul, une nuit, a mis le feu dans leur chambre. Ils ont enfermé dans leur chambre et a mis le feu à la maison. Il est venu me chercher avant que ça brûle. Il m'a tiré dehors et hors de la maison, qui prenait feu avec ses habitants. Il a essayé dans la cour de m'avoir. Il était devenu complètement fou. Je me suis débattu. Il lui a enfoncé une fourche dans la poitrine. Il est mort sur le coup. Tout le monde est mort dans l'incendie. Mon mari n'était pas dans la maison. Il avait été dormir dans la campagne au frais. Lorsqu'il est revenu, je lui ai tout raconté. Les gens du village ont appris l'histoire. Ils ont dit que c'était de ma faute, que j'avais jeté les mauvais sorts, que j'apportais le malheur. Elles me poursuivent à coups de pierre. Mon mari me défendait. Il voulait que l'on parte. Mais les gens du village ne voulaient pas. Voilà l'histoire. Un pays de fous, de vieilles croyances. Je vais lui demander, qu'allez-vous faire maintenant? Elle lui dit, rentrer à Paris et recommencer ma vie. J'ai tout perdu là-bas, je ne retournerai plus. Je rendis à Gilbert, qu'est-ce qu'on fait? Gilbert lui dit, nous rentrons, il faut la ramener. Et ils sont retournés. Ils s'en sont retournés. Le voyage se passe calmement. Elle a repris des forces, mange bien. Florent, pour la distraire, il joue de la guitare. Tournés à leur port d'attache. Ils ont acheté des habits propres à Florence. puis sont repartis pour Paris. Dans la soirée, la ville les surprenne et semble étouffée après le grand large. Gilbert demande à Hélène : vous allez où ? Elle lui dit : laissez-moi devant un hôtel, place de l'Étoile. Il lui demande : vous avez de quoi payer ? Elle lui dit : j'ai ma carte et dessus il y a de l'argent. Mon père était le président de la société de production ZYZ de Film Télévision et Sicom, que par exemple l'homme branché. C'était un ami de Monsieur Pontois, un très vieil ami de Monsieur Pontois. La voiture s'est arrêtée devant un hôtel. Elle les embrasse. C'est pour tout. Je vous inviterai à une de mes soirées ensemble. Elle sort de voiture. Il la voit entrer à l'hôtel. Gilbert dit : quelle histoire étrange. Laurent lui dit : vous avez complètement mis en l'air mon plan. Et quel était ton plan ? Florent lui dit : on passe un bon moment avec des filles. Gilbert lui dit : tu aurais mieux choisir l'Italie ou la Suède au lieu de la Grèce. Étrange cette fille, Hélène, avec un H, de Madame de Hautebord. Florent lui dit : étrange, mais belle fille. Gilbert lui dit : qui a eu du malheur, Laurent lui dit. Ça, c'est sa version. Tu sais, dans ces régions, tout devient tragédie. En France, une histoire comme celle-là aurait été du boulevard. Question de tempérament et de culture. Tu ramènes chez toi ? Oui. Je suis crevé. Merci. Et il met la voiture en route. Il le ramène chez lui. La voiture s'est arrêtée devant la maison de Gilbert. Gilbert lui dit : tu veux boire ou manger quelque chose ? Il lui répond : non, merci. Moi aussi je suis crevé. Au revoir. Gilbert lui dit : merci pour tout. Et il sort de voiture. Et la voiture s'en va. Sonne à la porte. La porte s'ouvre, c'est le domestique. Bonjour monsieur, bonjour. Il entre. Mes parents sont là ?
Oui monsieur, ils sont au salon.
Bien, je vais les voir. Et Gilbert monte à l'étage.
frappa la porte du salon. Entrez. Il entre. Ses parents sont assis dans le fauteuil. Il se lève en le voyant. Son père lui dit, déjà. Il va vers eux, les embrasse et s'assoit dans un fauteuil.
Et vous, déjà, hein? Il leur raconte ce qui leur est arrivé. Sa mère lui dit,
vous auriez mieux fait, c'est de rester ici. Quelle histoire! Tu as failli te faire tuer.
Son père lui dit, mais non, c'est une très belle histoire. Il a sauvé une femme, c'est extraordinaire. Bravo, mon fils. Moi, lorsque j'étais jeune, j'aurais aimé vivre, je rêvais de vivre une histoire comme celle-là.
Charlotte lui dit, mais lui, c'était pour de vrai, et il a failli être tué par des sauvages.
Le père lui demande, et qui est cette femme?
Sibère lui dit, Hélène, je ne sais pas son nom de famille, je m'en souviens plus. Elle est la fille d'un producteur de télé AS ou AZ, Y ou YZ ou je ne sais pas.
Oui, je vois les studios sur les bords de Seine. Grosse maison de production, très importante. Ils ont, je crois, des chaînes câblées ou sous satellite. Ce n'est pas n'importe qui que tu as sauvé. C'est beau, ça.
Charlotte lui dit, je t'en prie. Ne lui mets pas des idées en tête. T'es déjà assez comme ça. Allons nous coucher. À moins que tu veuilles manger.
Non, merci. J'ai à manger avant d'arriver à Paris.
Ils se lèvent tous les trois. Et sortent de la pièce pour monter à leur chambre.
Le lendemain matin, Gilbert téléphone à Julien pour lui dire qu'il est de retour.
Tu as fait vite? Oui, je t'expliquerai ce qui m'est arrivé.
Un an plus tard, il va sonner chez Julien.
Il va sonner chez Julien. La porte s'ouvre.
Bonjour, bonjour monsieur.
Il entre. Et il va dans la chambre de Julien. Va. Et entre. Julien lui dit, alors, Gilbert va s'asseoir
sur le rebord du lit. Et lui raconte tout. Julien lui dit, quelle histoire ! Quelle histoire ! Il faut l'écrire. Voilà un beau sujet pour toi. Tu as raison. Je vais en faire une nouvelle.
Et le lendemain, il se met à son travail. Il écrit aussi une nouvelle d'après ce qui lui est arrivé. Il a revu aussi Nathalie, qui est heureuse de le revoir et lui dit que ses gens lui portent la poisse. Et les jours passent. Quelque temps, il ne voit plus ni le frère, ni la sœur, ni les autres. Il consacre ses soirées à Nathalie. Vit à l'hôtel, un grand hôtel, place de l'Étoile, un palace. Elle a une suite décorée Louis XV avec terrasse sur la place. Hélène est allée chez les grands couturiers, s'est acheté une garde-robe complète avec tout ce qu'il faut, sac, à main et accessoires, même des bijoux, coiffeur, manicure. Bain de bouche, régime. Hélène est devenue méconnaissable. Elle passe ses journées à faire les magasins. Paris l'a reconquise. La journée ne pense plus à Lille. Ni à la mort tragique de son mari. Mais la nuit, ses rêves, la ramènent dans l'île. Elle rêve ce qu'elle a vécu, les cris, les pleurs, le sang, le feu, tous ces hommes, avec leurs gestes obscènes, ces femmes, en noir, qui la traite de putain, ce blanc, ce soleil, cette chaleur. Et ce mari, qui était impuissant, qui ne lui a dit qu'après son mariage, comme il lui a caché ses origines de paysan, de pauvre paysan.
prince. Sans importance. Il m'a eu. J'ai souffert à cause de lui. Maintenant, c'est fini. Des fois, la nuit, elle entend des voix. Des voix qui lui disent « Hélène, tu es à nous. Reviens, tu es à nous. » Des femmes crient, des hommes lui courent après, lui crachent à la figure. Elle se réveille en sursaut, en sueur, essoufflée. Lorsqu'elle se rencontre qu'elle est à Paris, elle s'apaise et se dit que ce n'était qu'un rêve. D'ailleurs, ce n'est qu'un rêve, rien qu'un rêve. Après-midi, le téléphone sonne dans sa chambre. Elle est en tailleur rouge, très élégante. Elle a pris l'appareil. Allô?
Oui?
C'est la rédaction, madame. Vous avez une dame? Il doit être votre mère. Elle veut vous parler. Hélène hésite. Elle est furieuse. Elle dit que si je ne la reçois pas, c'est qu'elle va me harceler. Autant savoir ce qu'elle veut. Dit,
dites à cette femme de monter. Merci.
Elle raccroche. Soupire.
Plus tard, on frappe à la porte.
Entrez.
Entre une femme en tailleur noir, cheveux grisonnants, grande, mince, élégante. Elle ferme la porte.
Bonjour Hélène. Bonjour. Tu n'es pas heureuse de me revoir depuis tout ce temps ?
Hélène lui demande
« Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez voir ?»
La femme lui dit
« Toujours la même chose. »
Hélène lui dit
« J'en ai assez. Je ne veux plus. J'en ai assez. Je ne veux plus vivre comme ça. »
La femme lui dit
« Ce n'est pas leur avis. »
Hélène lui dit
« Ils n'ont plus d'avis à me donner. Je n'existe plus. »
La femme lui dit.
« Tu sais bien que non. La preuve, je suis là. »
Lui dit.
« Je veux mourir moi aussi. J'en ai assez de tout ça. Ça fait des lustres que c'est fini. Non, Hélène, tu resteras toujours la même. »
Hélène lui dit.
« J'aimerais mourir. Laissez-moi mourir. »
La femme lui dit,
tu sais bien que c'est impossible. Que voulez-vous encore?
La femme lui dit,
te faire connaître. Ah, qui?
Quelqu'un très bien. Elle soupire et lui dit,
C'est bien la seule mère à agir comme ça avec sa fille.
Oui, mais je suis la seule à avoir Hélène comme fille.
Rencontrer qui?
Tu permets que je m'assoie, si tu veux.
La femme va s'asseoir dans un fauteuil. Elle ouvre son sac. Pour prendre un briquet et un paquet de cigarettes qu'elle allume, puis elle lui dit:
voilà, c'est un grand industriel allemand. Sa famille est très nombreuse. Vous vivrez en Bavière. Ils sont très riches. Mais là n'est pas la question. Ils nous ont fait du tort.
Hélène lui dit:
quel tort, nous n'existons plus.
Et elle lui dit:
justement, c'est là qu'ils nous ont fait le plus de tort. On ne nous craint plus.
Hélène demande: et quel tort?
Je me suis lancé dans la recherche de ses origines. Cela peut être dangereux pour nous et pour les sept soleils. S'ils apprennent ce que nous faisons et que nous sommes qu'un, cela risque d'être dangereux. C'est pour cela que nous t'envoyons créer des troubles, comme tu sais le faire dans ce genre d'opération et quand tu apparais dans une famille.
Hélène lui dit: j'aurais pu en choisir une autre.
Elle lui dit: non, c'est toi que l'on veut. Il n'y a rien, personne d'autre.
Hélène lui dit:
j'en peux plus de tout ça. Je veux vivre normalement. Je veux que l'on m'oublie. Tu sais bien que c'est impossible. Ils seront toujours près de toi. Tu leur appartiens. Mais que leur ai-je fait?
La dame en noir se tait.
Hélène soupire et lui dit: cela fait des lustres que la guerre de Troie est finie.
La femme lui dit:
pas pour eux.
Elle regarde sa montre et lui dit:
je dois partir, j'ai affaire. Dans 2 jours, tu es invité à Versailles, villa du Cerf. Tu recevras une invitation. La personne que je te présenterai sera celui-là. 35 ans, grand, fort.
Elle ouvre son sac, en sort une chemise et la met sur la table.
Voilà tout ce que tu dois savoir.
Elle se lève.
Et dans 2 jours.
Et elle quitte la pièce.
Un jour, Julien.
Reçois une lettre de Françoise. Elle lui écrit qu'elle est en danger, qu'elle est obligée de se cacher, qu'elle lui racontera tout ça de vive voix, mais qu'il ne doit montrer à personne cette lettre, parce qu'il faut que personne ne sache qu'elle est en vie. Elle a besoin de son aide. Elle lui donne rendez-vous rue Saint-Jacques au numéro, vendredi soir à 1h. Qu'il se fasse le plus discret qu'il peut. Personne ne doit le voir entrer dans l'immeuble. Et elle termine la lettre en lui disant qu'elle l'aime, qu'elle ne doit pas se faire de soucis et que c'est un mauvais moment à passer. Elle l'embrasse très fort. Il est surpris par la lettre, mais heureux. Elle est en vie. Il croyait qu'elle avait disparu à jamais. Mais il se demande ce que cache tout ça. Si elle ne lui avait pas dit de ne rien dire, il en aurait parlé à Gilbert. C'est vraiment ennuyeux qu'il ne puisse lui en parler. Et il remet la lettre dans l'enveloppe. Et dans son portefeuille. Il n'en parle à personne. Se lève en essayant de ne pas faire de bruit, s'habille, et sort de sa chambre, les chaussures à la main. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morvetti.